olympique. Et le but, c'est de faire en sorte que les participants qui participent à nos projets connaissent un petit peu mieux leur lieu de vie. Mmh. Et à chaque fin de projet, on crée avec les participants une restitution. Mmh. C'est ce qu'on va animer ce soir. Là, par exemple, dans le quartier, dans le secteur, on est allé dans différentes écoles et on a créé un jeu autour de l'histoire et de ce qui se passe aujourd'hui dans ces quartiers-là.
Ok, mais ces histoires sont basées sur quoi exactement ?
Sur des recherches historiques, sur des rencontres avec des personnes ressources des quartiers, des anciens qui peuvent nous raconter des témoignages ou des structures qui travaillent dans le secteur. Par exemple, on était allé rencontrer au local quand on avait créé le jeu avec les enfants.
D'accord, ok. Parce que vous vous êtes rendu compte que il faut que les personnes qui vivent dans leur quartier connaissent leur quartier.
Oui, c'est une... il faut qu'ils connaissent, enfin, c'est une manière de le valoriser et de mieux y vivre et de... Ouais, voilà, c'est une question de mieux vivre dans son quartier parce qu'on l'appréhende mieux et du coup c'est valorisant aussi, quoi.
Et c'est destiné à quel public ?
Le jeu en question, à tout âge, le mieux c'est de savoir lire, mais sinon à tout âge on l'anime avec des enfants comme on peut l'animer en maison de retraite aussi. Donc,
mais c'est quoi, c'est genre un blind test ?
C'est genre un trivial poursuite. On pose des petites questions, un peu jeu de loi, trivial poursuite.
Et là, il va y en avoir ici, place du Lin, là, tout à l'heure. On va voir ça, on va jouer Grégoire.
Ah, on va essayer. On va essayer si c'est sur l'histoire d'ici. Je sais pas, on aura peut-être pas toutes les réponses.
Il y a aussi des choses actuelles.
Ah ouais, ok.
Et il y a des questions sur News FM aussi.
Ah bon,
je vais vous voir avec une classe, ouais.
Allez. Bon, on va pas jouer alors dans ce cas.
On prend le local aussi parce que tout ce qui est consommation locale, tout ce qui est bio, nous aussi on est dedans puisqu'on a aussi une web radio qui s'appelle Green Radio, donc qui est une radio éco-citoyenne aussi. Tout ce qui est écologie, environnement, tout ce qui est bio aussi, c'est des thématiques qui sont beaucoup abordées là-bas. Donc Pauline, vous êtes partie de quel constat en fait pour mettre ça en place?
Alors moi je suis pas cofondatrice des Hauts Locales, mais le constat il est venu que il y a certains quartiers en fait qui n'ont pas accès à des produits de qualité et qu'aussi il y a besoin, producteurs, productrices ont besoin de plus de débouchés pour leurs produits. Donc en fait on s'est dit pourquoi pas rapprocher les deux. C'est pour ça que les cofondatrices se sont installées dans le quartier Malherbe puis ensuite Villeneuve. Voilà, parce qu'en fait autour il y a des marchés mais on n'est pas sur des produits du coin. Ou alors il y a très peu de... C'était une offre comme une autre pour mieux s'alimenter.
D'accord. Et là, tout à l'heure, tu l'as souligné dans la présentation. Tu as dit aussi que c'est pour que les producteurs locaux soient bien rémunérés. Voilà. Mais ces producteurs locaux, sur quels critères, en fait, vous les choisissez comment, en fait ? Est-ce que peu importe n'importe quel producteur local qui fait du bio et vous le prenez, en fait, vous travaillez avec ?
Il y a ceux avec qui on a commencé historiquement, donc ils sont pas mal dans le Nord-Isère et qui, eux, avec peu de débouchés. Et ensuite, on a de temps en temps des nouveaux qui viennent nous contacter pour dire qu'ils se sont installés, ils nous proposent leurs produits. Et ensuite, on essaye de proposer des fois deux carottes la même semaine de deux producteurs. Et des fois, il y a deux prix différents où c'est deux. Voilà, il y a une petite différence et c'est au consommateur de choisir. Et en effet, en fait, on ne négocie pas les prix avec les producteurs. C'est eux qui décident du prix qu'ils ont besoin pour vivre, pour faire, pour rembourser leurs prix, pour vivre décemment.
Peu importe les prix qu'ils mettent sur table.
Ils sont toujours. Il faut savoir que les producteurs prix sont toujours honnêtes. Voilà, c'est ça. Et parce qu'ils savent qu'en fait, de toute façon, ça ne se vendra pas. On ne veut pas vendre 10 euros le kilo de carottes. Ça n'a rien de se proposer ce prix parce que personne ne l'achètera. Donc l'idée, c'est que les produits se vendent aussi, mais que derrière, ils puissent en vivre et pas se payer 1 euro de l'heure comme ça peut arriver pour beaucoup.
Et vous, vous faites comment pour distribuer tout ça? Parce que vous devez avoir quand même beaucoup de produits, quoi.
On fonctionne sur commande. Comme ça, on dit exactement au producteur la quantité, par exemple, de carottes qu'il y a besoin pour cette semaine, parce que tant de personnes ont commandé au total 50 kilos de carottes. Donc ils vont aller ramasser et nous donner 50 kilos de carottes. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Donc en fait, du jeudi soir, donc par exemple ce soir à partir de 20h, vous pouvez aller sur notre site internet, regarder tous les produits qu'il y a disponibles pour ensuite venir les chercher la semaine d'après. Donc du jeudi soir au lundi 16h, on va sur le site internet, on fait, c'est son shopping en ligne. Ça peut être, c'est comme si on achetait, je sais pas, des fringues en ligne. Bah là, c'est des super bons produits. Et ensuite, on choisit le point de distribution où récupérer son panier qui est tout fait en fait. Nous, on se réunit, on le fait et vous venez chercher comme ça, clé en main.
Et tu l'as dit que voilà, les producteurs, hein, c'est eux qui mettent leur prix. Et vous, quand vous les revendez, ça se passe comment en fait? Ou vous les donnez, je sais pas.
Nous, on est une coopérative avec des salariés. Et du coup, on a besoin de fonds pour fonctionner. Donc, on va avoir le prix des producteurs. On ajoute la TVA. Et ensuite, nous, on ajoute une marge pour pouvoir vivre. Et on fait en sorte que cette marge soit la plus petite possible pour que ce soit accessible à tout le monde. Et comme on sait que tout le monde n'a pas le même budget, on a, grâce à des subventions, la possibilité de faire une réduction de 24% sur le prix de tout, en fait, de tous nos produits. Comme ça, on a un peu plus d'équité face, voilà, pour pouvoir se payer des bons produits.
Et comment ça se passe, cette manifestation derrière tout ce qui est bio? Parce que c'est devenu une nouvelle consommation quand même, en quelque sorte. Les gens, ils se sont rendus compte que voilà, c'est les meilleurs aliments qu'il faut manger pour être en bonne santé, en fait. Est-ce que toi, depuis que tu travailles dedans, ça y est plus d'engouement ou ça se passe comment? Est-ce que les gens, ils sont de plus en plus demandeurs de ça?
Il y a vraiment un engouement au niveau de la santé, en fait. Effectivement, on a de plus en plus une prise de conscience sur, bah, en fait, si c'est pas bio, c'est qu'il y a des risques, il y a des produits qui sont vraiment mauvais pour la santé, ma santé à moi, la santé de mes enfants, etc. Mais il y a toujours cette idée que le bio, c'est plus cher, ou les produits locaux sont plus chers, ou en direct, etc. Alors, c'est pas toujours le cas. Nous, on essaye aussi de comparer nos prix avec les grandes surfaces, et on se rend compte que le kilo de tomates bio d'une grande surface, il est équivalent, voire plus cher qu'un kilo de tomates chez nous.
C'est vrai.
Alors que, pour être honnête, je pense qu'elles ont plus de goût chez nous parce qu'elles sont cueillies vraiment à maturité, par exemple les tomates. Et j'ai oublié ta question. Et qu'est-ce que je voulais
non,
dire
je dis, je disais
oui, l'engouement
que, ouais,
du coup.
Derrière.
Et on a beaucoup de personnes qui sont intéressées, qui viennent chez nous parce que
de plus en plus ou
voilà. De plus en plus, oui. Oui, enfin, on a de plus en plus de personnes intéressées. Après, des personnes qui passent le cap de faire la démarche de commander chez nous, pas forcément, parce qu'après, c'est chacun, chacune s'organise comme il veut. Mais déjà, rien que l'idée de faire la démarche d'aller vers du plus local, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, ou du bio, parce qu'on sait pourquoi on le fait, oui, ça intéresse de plus en plus de monde.
Et toi, tu manges que du bio ou non?
Moi, j'essaie de manger que du bio.
C'est vrai?
Ouais. Mais comme tout le monde, quand il y a besoin, je vais me dépanner ailleurs.
J'avoue.
Voilà.
Justine, est-ce que vous faites un jeu aussi sur le local ou pas? Concernant l'alimentation, je ne sais pas.
Sur le haut local, non. nos jeux, après, sont locaux. mais après, il y a aussi des questions, comme je disais tout à l'heure dans notre jeu, sur le haut local. Ouais, après nous, les partenaires avec lesquels on travaille, ils sont dans l'Isère aussi, quoi.
Dans l'Isère, ok, dans toute la région iséroise, vous allez partout et vous travaillez à quelle fréquence? Ça se passe comment? C'est tous les jours? C'est à temps plein?
Alors oui, c'est à temps plein, on est 3 salariés, on a à peu près 20-25 projets par an.
Ah ouais?
Et on va dans différentes villes ou villages iséroises. Faire des projets pédagogiques et créer des restitutions avec différentes classes.
Et comment vous faites pour trouver la matière? Est-ce que vous allez dans les archives où vous trouvez tout ça?
Oui, exactement. On travaille avec les archives municipales et métropolitaines de Grenoble, les archives départementales, les archives des communes. Et puis souvent aussi, on aime bien que ce soit aussi un peu plus concret. Et on va rencontrer des personnes directement qui vivent dans les communes ou qui sont depuis longtemps, qui ont déjà fait des recherches eux et qui peuvent nous le transmettre aussi à l'oral.
Et si ces personnes, il y en a qui nous écoutent, qui ont beaucoup de bagages sur ce domaine-là et qui ont envie de transmettre, comment ils font?
Eh bien, ils peuvent nous contacter. Après, est-ce qu'on aura un projet sur la commune dans l'année ou l'année prochaine? Peut-être pas, mais en tout cas, je peux vous dire aussi les projets qu'on a l'année prochaine.
Ah ouais, bien sûr, oui.
Qui ont des connaissances dessus. On va par exemple à Pont-de-Clé, on va à Fontaine, on va à la Saône, à Saint-Romand. Au Bernin, enfin voilà, il y en a plusieurs, j'ai pas tout en tête, mais ouais, ils peuvent nous contacter. Après, souvent, on demande aux mairies leurs contacts parce qu'on sait qu'ils les ont et c'est des contacts précieux. Donc,
Et chaque projet, ça prend combien de temps pour le mettre en place?
Pour le mettre en place, nous, on cherche des financements un an avant. Et ensuite, on établit le planning avec les enseignants. Et un projet, ça dure 5 séances. Donc on vient sur 5 semaines, par exemple, on vient 2 à 3 heures en classe toutes les semaines. Pour on a un petit planning pour développer l'histoire de la commune, ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite, on a aussi des séances pour créer la restitution avec les enfants.
Histoire 2, c'est ça le nom de l'association.
Oui.
C'est créé depuis 2002, tu nous as dit tout à l'heure.
Oui.
D'accord, en tout cas très très intéressant, parce que moi je dis ça aussi, entre parenthèses, je fais un atelier, un podcast avec les jeunes de l'école d'Hydro.
Ouais.
Donc ils ont eu l'occasion de t'interviewer sur l'histoire de la place, là, le square des Figiers, parce que même moi je ne connaissais pas, donc c'est en montant l'interview que je me suis rendu compte que c'était très très intéressant en fait. Donc voilà, en tout cas bravo à vous. Je sais pas, Grégo, peut-être toi tu as une question.
Moi déjà je voulais juste saluer les deux initiatives, que ce soit tant au local pour mieux manger et histoire 2 pour découvrir un peu mieux l'endroit où on vit. Je sais pas c'est combien ça représente, combien de personnes au temps pour Histoire 2, parce que là tu nous as donné une grande zone d'intervention en fait. Quand tu parles de Bernin, tu parles de, enfin vous êtes nombreux peut-être pour assurer tout ça, tous ces déplacements dans cet assaut.
Là on est trois.
Bravo.
Après on arrive à toucher beaucoup de monde parce que on travaille avec les enfants et après ça touche des familles et au sein de ce qu'on fait, les enfants ils peuvent partager ça avec les familles.
Ouais.
Mais on s'organise, on a un planning, on sait à quel jour on va là et
j'imagine.
Ça fonctionne bien.
Vous étiez des passionnés d'histoire aussi un peu dans vos vies respectives avant de monter ça?
On a chacun fait des études plus ou moins d'histoire de l'art ou d'architecture ou d'urbanisme, donc
D'accord. Au cœur de ce que vous êtes. Et au local, vous êtes combien? Ça représente combien de personnes
Nous, on est 6 salariés, mais on n'est pas à temps complet. Mmh. Voilà, on est à temps à mi-temps ou à temps partiel. Ouais. Voilà, c'est ça.
Okay.
Et on a aussi des jeunes du CODAS qui viennent nous aider pendant 5 heures le jeudi matin à faire la préparation des paniers.
Okay. Très
d'accord.
Bien.
Et Justine, ces histoires, on peut les écouter quelque part? À chaque fois que vous passez un endroit, est-ce que vous laissez quelque chose où les gens qui viennent, même qui n'ont pas participé, qui peuvent l'écouter, des podcasts ou je ne sais pas? Est-ce que vous avez un site internet, les gens ils peuvent aller découvrir tout ça?
Alors oui, on a un site internet alors où il n'y a pas tout ce qu'on fait, mais il y a en tout cas les projets qu'on a fait dans l'année et celle qui vient après. Et sinon, à chaque fin de projet, on fait une restitution. Nous, on a un peu une devise chez Histoire 2, c'est d'apprendre par le jeu. Donc, on réalise beaucoup de jeux avec les enfants. Je dis les enfants parce que c'est une grande partie de notre public, mais on travaille aussi avec d'autres, des habitants, des seniors, etc. Et donc, ce qui reste de nos projets, c'est donc soit des jeux, soit des dépliants, des balades urbaines. Et par exemple, à Diderot, on avait fait un projet. Ce projet-là existe depuis une dizaine d'années. Il y a
un site, un guide multimédia où on a interviewé plein de gens dans le quartier Berryat-Saint-Bruno. Et là, on peut aussi aller voir ce site-là, ça s'appelle Raconte-moi Berryat-Saint-Bruno.
D'accord, on a, trop bien.
On essaie de varier les plaisirs au niveau des restites.
Bah, allez suivre ça, les amis. Pauline, et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans, au local, en fait?
Et ben, moi, j'adore tout ce qui est transmission, échange et tout ce qui est alimentation, agriculture. Donc là, ça, j'avais un bon moyen de combiner les deux. Moi, je suis vraiment à fond dans tout ce qui est agriculture, alimentation saine, bio, etc. Et j'ai envie de défendre ça. Et donc là, j'ai l'opportunité de le faire concrètement. Donc en proposant des paniers et en faisant aussi des actions de sensibilisation. Du coup, ça veut dire venir dans les quartiers, proposer des jeux aux enfants. On fait des ateliers smoothie, on fait des visites de ferme, des ateliers cuisine. J'ai aussi un petit jeu de loi sur l'alimentation, là, qu'on va essayer tout à l'heure.
Ah ouais?
Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je suis arrivée au local.
Voilà, donc les amis, en tout cas, venez à la place Dublin, on va se régaler aujourd'hui.
Charles Dublin. On va se faire engueuler encore après.
Ouais, on va se faire engueuler. Attends, j'ai pas enlevé le petit B là, parce que c'est eux qui l'ont fait.
Enlève-moi ce B.
C'est eux qui l'ont fait. Donc voilà. Merci beaucoup, Justine.
Merci.
Et puis merci, Pauline. Et puis à très bientôt, pourquoi pas, sur les ondes de News FM. Et vous qui nous écoutez également, bougez pas, on arrive dans un instant. Une petite pause musicale.
News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 10 juillet 2025, c'est la fête du quartier Tesserre-Malherbe de Grenoble.